raison et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les pays de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre les taux sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruxelles se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2. Au sommaire de l'émission de ce soir, nous commencerons par un documentaire sonore qui relate une enquête autour de la mort d'un vieux Shibani, donc à l'Isiri. Nous parlerons ensuite des permissions de sortie, des poursuites à l'encontre de militants toulousains de la campagne boycott des investissements sanctions à l'égard de l'État d'Israël et de Christine Ribahi et de Georges Ibrahim Abdallah, et nous terminerons par nos traditionnelles annonces. Pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au 05 61 53 36 95 pendant les morceaux musicaux et aussi pendant le documentaire sonore, mais ce serait quand même aussi bien d'écouter.
qui revient sur la soirée, la nuit du 11 juin 2009, nuit pendant laquelle Ali Ziri, retraité algérien, est décédé à Argenteuil après son interpellation par la police. Et donc Marine Vlahovic est partie enquêter sur ce décès, et donc elle a suivi des patrouilles de flics qui recherchaient des jeunes de banlieue et des jeunes de banlieue qui recherchaient des flics. Bref, ça se passe de commentaires autres que ceci.
C'est certains éléments qui se comportent comme des voyous, oui, les trois policiers qui ont procédé à l'interpellation des deux retraités, c'est des voyous. Un policier ne doit jamais perdre de vue qu'il est là pour protéger le citoyen.
Alors eux, ils sont constamment là, puis on est traité de nombreux autres. Ça peut être curieux, ça peut être comme ça. Alors, on va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps.
identité, contrôle, palpation, voilà, et ce que tu fais, tu viens d'où, tu vas où, ta tête, j'aime pas ta tête, j'ai envie de vomir quand je vois ta tête. Ça, c'est quand je suis tout seul. Alors, quand je suis à 4, 5, alors là, c'est carrément des gestes, ça pousse, ça ferme ta gueule, tu dis, t'es pas content, je te frappe, je te mets en sang, direct, hein, hey, cassez-vous, je veux plus vous voir, ouais, là, là. Et pourtant, on a le droit, on a rien fait de mal, on est juste à côté, et puis on pourra rien, on peut aller en garde à vue, ils nous fichent, ils nous font les empreintes, on dirait qu'on est des robots, quoi, des robots informatisés avec un code barre. On marche comme ça, c'est grave. Regardez là, vous entendez la sirène. Voilà, c'est tout le temps comme ça, on a l'impression d'être dans une guerre civile. Et il suffit qu'il y en ait qui disent ouais, prenez des pierres, vas-y, on va les caillasser, c'est bon, là on a marre de les voir. Voilà, et ça part en couille, quoi, ça part en cacahuète. C'est l'adrénaline, l'excitation, on court, on se cache, voilà, on a l'impression de tu sais, un jeu là, qui est un jeu de guerre là, il est pas mal.
9 juin 2009, la Légérie, donc, s'est réveillée le matin et il a emprunté ce chemin et il a rencontré Aresti Kerfali dans ce café-là, qui est fait l'angle. Ils ont fini dans un café en face de l'église. Aresti, qui a stationné ici, lui a proposé donc de le déposer. Ils prennent leur voiture ici et puis les policiers disent au conducteur donc, de s'arrêter, il s'arrête. Descendent et lui demandent des papiers. D'après les policiers, donc, ils ont senti qu'il y avait un peu éméché ou d'alcool, donc ils ont dit vous avez bu, etc. Descendez tout de suite, le temps est monté. Ça a dégénéré.
On utilise terme qui correspond à la police. C'est un terme adapté à la délinquance. On dit que les délinquants sont violents. On ne doit pas, nous, agir en tant que délinquants. On ne pas les délinquants.
Contre les violences policières, on organise un rassemblement tout à l'heure. En hommage à ce monsieur qui s'appelle Zéry, qui est décédé malheureusement suite à un contrôle de police. On demande à ce que la justice soit faite sur cette affaire parce qu'il faut savoir que ce monsieur a été assassiné par trois policiers. D'accord ? Et ces trois policiers sont toujours en fonction à Argentan.
Discret. Si vous voulez, il ne rentre pas dans la catégorie des
s'approche, il vérifie que c'est bien nous. Puis si on ne bouge pas à son approche, il repart avec le groupe et là ils sont tranquilles. Là, ils ont toujours un comportement méfiant. Quand ils sont en groupe, ils sont toujours, toujours à l'affût. Nous, encore plus. Parce que nous, on ne leur lance pas des pierres.
Ça devait bien arriver un jour. Hein. Ça arrive à une personne âgée, mais ça aurait plus de chances d'arriver à un jeune, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est souvent les jeunes qui sont contrôlés, pas les vieux. C'est dur de dire ça, mais les gens sont habitués. Le bruit d'un passage de joint. Maintenant, c'est le bruit d'allumage de joint. Et on est vite par la loi.
Sous
laboratoire. Plusieurs fonctionnaires ont constaté soit que les hommes vomissaient à plusieurs reprises, soit la présence de vomi au sol au niveau de leur visage, sans plus se préoccuper de leur état de santé, car selon les fonctionnaires, ils étaient ivres et insultants.
C'est tout ce que je sais, c'est qu'après le commissariat, il a été transporté vers 22h à l'hôpital d'Argenteuil.
Durant l'attente à l'hôpital, les policiers ont constaté qu'Alizieri vomissait et s'étouffait. Un médecin a constaté qu'Alizieri faisait un arrêt respiratoire et a déclaré qu'il était tout gris et ne répondait pas aux questions. Il était inconscient. Alizieri est décédé le 11 juin 2009, à 7h30 du matin.
C'est toujours des choses très pénibles à vivre pour nos collègues parce qu'il y a un sentiment de suspicion qui existe encore aujourd'hui. Donc toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire. On suspecterait les fonctionnaires de police d'avoir usé d'une force disproportionnée et d'être à l'origine de la mort de ce monsieur. Donc c'est tragique, c'est perturbant pour nos collègues qui sont en plus de jeunes fonctionnaires. Vous savez qu'en région parisienne et notamment sur le Val-d'Oise, on n'a pas beaucoup d'anciens policiers. On ne peut pas dire que ce soit une partie de plaisir d'intervenir pour quelque chose qui à la base est assez ordinaire dans le quotidien d'un policier et que ça se termine par le décès d'une personne, bien évidemment.
Un nouveau juge qui a été désigné, ce juge a demandé une unième expertise à la lumière des expertises précédentes.
Conclusion du rapport d'expertise en date du 15 avril 2011. La reconstitution des faits ou expertises permettent d'affirmer que l'inefficacité cardiaque constatée aux urgences est secondaire à un trouble majeur du rythme cardiaque, lui-même secondaire à un épisode hypoxique en rapport avec les manœuvres d'immobilisation et les vomissements itératifs.
Faire le maximum pour établir au mieux un contact avec ces personnes maintenant.
Il y a un dialogue.
Vous commencez à avoir très peur. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire Aristide Kerfali qui est donc convoqué aujourd'hui pour outrage. Le tout est reporté donc mars 2012. Donc je vous dis au revoir et puis à lundi au conseil municipal à 27h.
Parce que pourquoi il est passé aujourd'hui, il fait pour trop tard, et après juste pour 2012, il passait encore l'autre président, normalement justice, et il fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de morts, c'est pas celui-là, c'est pas juste.
Cette affaire, Elisabeth, ça a été bizarre, parce que ça a été étouffé vite fait, tu vois ce que je veux dire, ou pas? Les gens, ils ont même pas entiré, ils ont même pas eu le temps de réagir, tu vois ce que je veux dire? Ça a été étouffé d'une vitesse incroyable. Je sais pas comment ça se fait, lui, il est tombé dans leurs mains. Il n'est pas compris. Et à la fin, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah, rien. Néon, zéro, rien. Wallou, nada. Il n'y a rien qui a bougé. Ça y est, on va oublier. Comme ceux qu'on a déjà oubliés. Famille, on a oublié, tu vois ce que je veux dire, c'est passé quoi, tu vois, la douleur est passée, bah, là aussi la douleur a passé, puis c'est tout.
Arte.
Ce sera comme ça.
Radio.
Jusqu'à la prochaine fois, on aura encore mal. Stand up, inshallah, make it to China.
s'était démarqué avec virulence de cette pratique populiste, demandant au parquet de privilégier les mesures de nature à promouvoir la réinsertion du condamné. Le gouvernement envisage aujourd'hui, après un fait divers certes dramatique, de changer un régime d'octroi déjà complexe et de systématiser les escortes, ce qui porterait un coup d'arrêt à la vocation de réinsertion de ces sorties. Un détenu va-t-il rencontrer son conjoint ou un potentiel employeur encadré de policiers ou de surveillants ? La permission de sortie permet de préparer une réinsertion, de maintenir des liens avec l'extérieur et donc de prévenir la récidive. Dans 99,5% des cas, ces permissions, il y en a 50 000 chaque année, se passent sans incident et permettent aux personnes détenues de préparer leur sortie, de chercher un emploi, un logement, de voir leurs proches dans des conditions de normalité perdues derrière les barreaux. Donc, on peut dire que quand même, on parlait quand même que des permissions qui se passent mal, alors que 99,5% des cas, il n'y a pas de problème. Et en outre, du coup,
quand on parle des récidives, les gens sortent, quoi. C'est pareil aussi, ce sont des chiffres tout à fait mineurs, mais c'est à chaque fois le fait divers qui justement fait fonctionner la politique et fait des lois, quoi.
Oui. Et quand on parle de ces évasions, il y en a 295 en 2013, il y a souvent en fait des cas de retard et de non-réintégration dans les délais de permission. Donc c'est pas l'évasion, quoi. C'est certains détenus, ils devaient rentrer tel jour, il y en a ils rentrent pas, il y en a ils rentrent quelques jours plus tard. Enfin bon, c'est un peu, du coup, c'est quand même comptabilisé comme des évasions, mais bon. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du coup, la garde des Sceaux et le Premier ministre mettent une nouvelle fois les juges de l'application des peines sous pression pour qu'ils octroient de moins en moins de permissions de sortie. Ils les mettent déjà sous pression alors qu'ils octroient déjà de moins en moins de permissions de sortir. Déjà, c'est pas génial. Rejetons la demande de permission de sortir en raison d'un mauvais comportement et d'un mauvais état d'esprit. Telle est la réponse du juge de l'application des peines reçue en juin 2014 par M. F, détenu en Rhône-Alpes. 8 jours plus tôt, la commission pluridisciplinaire unique, qui réunit les différents professionnels en contact avec le détenu, avait pourtant estimé dans une synthèse communiquée à M. F qu'il présentait, depuis son arrivée en juin 2013, un bon comportement. Elle saluait ses efforts, formation, emploi d'auxiliaire, versement volontaire aux parties civiles, suivi régulier avec la psychologue et l'invitait à les poursuivre. Mais en détention, là, du coup, il va pouvoir les poursuivre. Donc, nombreux sont les détenus qui voient leur demande de permission refusée pour des motifs contestables. Le nombre moyen de permissions accordées en 2013 est de 0,91 par condamné. Au total, cela représente 55 302 octrois pour un nombre moyen de condamnés de 60 803. Un chiffre dérisoire si on compare avec les chiffres de l'Allemagne, où il y a 879 500 permissions accordées en moyenne pour un nombre moyen de 62 000 condamnés. Donc il y en a quand même énormément plus. Soit une moyenne quand même de 14 permissions par détenu contre à moins de une pour la France. Et ceci qu'elles soient de plusieurs jours consécutifs pour des congés pénitentiaires, comme on appelle ça joliment, ou d'une journée pour un motif particulier. En France, des permissions d'un jour peuvent être accordées pour se présenter à un examen, rencontrer un employeur, participer à un événement sportif ou culturel, ou se rendre dans un centre de soins. Des permissions plus longues sont possibles pour préparer la sortie de prison, trouver une structure d'accueil, un hébergement, une formation, un emploi.
Je crois qu'on en avait déjà un petit peu traité sur cette antenne de ce sujet-là, des autorisations de sortie, qui à chaque fois sont très délimitées par rapport à la raison pour laquelle on te laisse sortir, quoi. C'est très 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 encadré, quoi. Ouais.
Oui, disons que c'est censé permettre la réadaptation et la réinsertion, et en fait ça sert quand même de carotte.
Oui, puis après, il faut toujours
réguler le comportement.
Il faut un justificatif, à part des autorisations très rares de week-end, mais à chaque fois, c'est des justificatifs, quoi. On ne peut pas sortir comme ça, quoi. Pas comme ça, je veux dire, sortir pour pouvoir se réadapter, comme ils disent.
Non, parce que du coup, c'est très,
c'est très mal vu. Quoi. Voilà,
c'est, ouais, c'est aussi très encadré par la loi, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi on va faire encore une autre loi? Parce qu'il y a la fête d'hiver. C'est déjà très, très encadré. Quoi.
Mais c'est déjà très compliqué, oui.
Du coup, j'avais interrompu dans la liste parce que je sais qu'on l'avait déjà traité un petit peu sur l'antenne.
Oui, alors du coup, je ne sais plus où reprendre. Ouais, du coup, tout ça pour dire que voilà, que les permissions, elles sont complètement détournées de leur fonction et que en pratique, on ne devrait pas tenir compte du motif de comportement. Parce qu'en fait, c'est pas, enfin,
c'est pas une récompense, quoi, en fait.
Non, voilà, c'est pas un système de punition. Normalement, c'est censé être validé pour tel ou tel motif et non pas.
Ça fait un peu comme tout ce qu'on trouve dans le milieu carcéral, le travail, le sport, les études. À chaque fois, il faut être soumis en fait à l'autorité carcérale, gentille, quoi, comme ils disent, être soumis à eux pour pouvoir avoir ces autorisations. Voilà. Alors que ce serait, devrait être l'inverse, c'est des gens justement qui ont des difficultés à s'adapter, qui devraient bénéficier de cela pour justement arriver à se réadapter.
Tout à fait. Et puis en plus, ce qui est un peu abusé, on va dire, c'est que en plus, ces commissions qu'accordent ces permissions de sortir, elles ne reçoivent pas forcément le détenu. Donc, il n'y a pas d'avis contradictoire. Elles peuvent très bien, juste avec un simple compte-rendu d'incident en détention, décider que ben, ce détenu, il n'a pas un comportement acceptable, donc il n'aura pas une permission de sortie, alors qu'elles ne l'ont même pas entendu et que ben, parfois, ben, si on, enfin, juste on discute avec quelqu'un, en fait, on se rend compte que ben, ce n'est pas parce qu'il y a eu un incident que...
Ouais, la commission décide seule. Quoi. Ouais. C'est toujours le grand pouvoir de l'autorité. Quoi.
Ouais. Et du coup, au point de vue de la législation, donc, le code de procédure pénale prévoit que les condamnés ayant exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à 3 ans, peuvent bénéficier d'une permission de sortir d'une durée maximum de 3 jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale.
Et tout est dans le peuvent.
C'est ça,
peuvent. C'est-à-dire ne bénéficient pas systématiquement. Alors que bon, si proche de la sortie, ça serait l'évidence. Quoi. À chaque fois, c'est ça, c'est ce pouvoir discrétionnaire, comme on dit.
Si, c'est ça, discrétionnaire, je pense.
Et surtout, ce que tu disais en introduction, c'est comment on peut légiférer le sort des gens sur des faits divers, alors que 99%, plus de 99% des sorties se passent bien, quoi, c'est ça ? Pas bien. On va dire bien pour l'administration. C'est-à-dire dans leur logiciel, dans leur statistique, ils ont
bien pas d'incidents.
Ouais. Après, je ne sais pas si les conditions pour les personnes sont idéales. Ça, c'est autre chose, il faudrait y voir de plus près. Là.
Et du coup, donc, la permission de sortir est aussi appréhendée comme une mesure à accorder une ou deux fois juste avant la libération, bien qu'il n'y ait aucun texte qui signifie, qui limite le nombre de fois, vu que ça peut être 3 ans avant la sortie. Du coup, on peut imaginer qu'il y ait plusieurs sorties par an. Enfin, il n'y a rien qui justifie du coup la pratique telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. Et les refus de permission pour un... Du coup, les refus de permission pour des questions de discipline, ben, ça génère souvent du découragement, voire des renoncements. Avec des prisonniers qui ont engagé des démarches pour monter un projet de réinsertion et qui voient que même en faisant des efforts, du coup, de toute façon, en gros, on leur dit non. Donc, en fait, il y en a, ben, ils n'ont plus envie de continuer. Et ça s'entend légèrement, quoi.
Et en plus, ces constats-là, c'est des constats qui sont faits officiellement, en fait. Il y a des gens qui font des rapports, etc. Et on a des statistiques qui le prouvent, quoi. Et on dirait que c'est la tête dans le mur, quoi. Non, les prisonniers sont coupables, toujours coupables, donc il ne faut pas les laisser sortir.
Bah, c'est plus simple.
Voilà, c'est plus simple. Oui. C'est plus simple qu'ils ne sortent pas. Oui, ouais,
c'est ça. Sûr.
Et en plus, ils veulent rajouter des nouvelles... alors qu'il y a déjà deux décisions récentes de la Cour de cassation qui viennent mettre à mal le droit à un recours effectif pour ceux qui ont été déboutés d'une demande de permission.
Ah, ils ont obtenu leur droit, mais bon, ils l'avaient raté, mais bon.
Et là même, en fait, maintenant, on pourra, à partir depuis le 29 janvier 2015, du coup, la chambre criminelle de la Haute Cour a estimé qu'un pourvoi portant contre une demande de permission de sortir dont la date est dépassée sans objet. Donc maintenant, on ne pourra même plus émettre un recours pour une permission qui a été refusée si la date est dépassée, ce qui est quand même juste aberrant. Quoi. Ça veut juste dire qu'en fait, il n'y aura plus de recours pour examiner la légalité des refus, puisque... Puisque quand même, en général, ils n'ont pas non plus l'information 3000 ans avant de sortir.
Tout ça, c'était avant le fait divers où, soi-disant, on voudrait à nouveau durcir.
Voilà, c'est avant les nouvelles dispositions qui risquent d'être prises.
Madame Taubira, qui avait fait plein de promesses, on le verra un peu plus tard, et qui n'est pas en capacité d'en tenir aucune, on dirait.
On va parler de l'affaire de la Belge, puisque le 29 septembre dernier avait eu lieu le procès de cette affaire de la Belge. C'était à Toulouse. Alors les faits, on va les rappeler rapidement, même s'ils sont connus. Ça avait été une action contre les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse. C'était en solidarité avec une révolte qui avait eu lieu dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur. Il y avait eu des tags, du liquide nauséabond, un peu de bordel et des tracts et des disparitions, des tracts disséminés sur le sol. Et tout le monde avait disparu, illico, cristo, c'était assez classique, c'était en juillet 2011. Alors, tout le monde s'est rapidement mis au travail, et tous les flics étaient cravachés, nous dit-on, par un procureur qui s'était le jour même déplacé sur les lieux et avait promis de laver cet outrage. Au bout de 4 mois d'enquête,
une opération... C'est pas l'outrage qu'il fallait laver, il avait des bureaux.
C'est voilà, c'est ça. Et donc, du coup, au bout de 4 mois d'enquête, une opération monstre mobilisant 350 flics, dont la brigade antiterroriste, réalise des perquisitions dans 7 lieux à Toulouse, 11 arrestations, 48 heures de garde à vue pour 6 personnes, et au bout du compte, 5 mises en examen, un témoin assisté et surtout 4 détentions provisoires. Alors, la démesure entre les faits et l'opération policière laisse sans voix. Il a fallu s'organiser, gérer les peurs, organiser la solidarité et préparer tant bien que mal la riposte. La détention durera 3 mois où les méthodes vexatoires de la pénitentiaire ne seront pas sans effet, notamment sur la santé d'une camarade. Et une manifestation de solidarité avait eu lieu le 17 décembre 2011, qui a d'ailleurs connu une répression sans précédent dans la ville, mais qui répression qui s'est reproduite à l'occasion des manifestations de novembre 2014 suite à la mort de Rémi Fraisse. Voilà, et donc ce 29 septembre dernier, jour du procès, on va donc pouvoir mesurer les résultats du travail des gendarmes et de la justice, et on n'est pas déçu. La procureure voit à plusieurs reprises alléguer tout simplement des choses complètement fausses, notamment que l'un des prévenus absents est sous contrôle judiciaire, et en fait il n'y a plus de contrôle judiciaire depuis la fin de l'instruction, ça fait plus d'un an.
Il n'y a pas le temps de lire le dossier ?
Visiblement non, puisqu'elle a dit aussi qu'il y a 3 personnes qui ont été incarcérées dans cette affaire, alors qu'il y en a bien eu 4 qui ont subi l'enfermement. Et puis elle affirme aussi que le portable d'une des prévenues a activé une borne sur les lieux des faits, en fait c'est une fabrication de preuves tout simplement, enfin elle a un petit peu déliré. Et donc à cette incompétence, elle ajoute un raisonnement très procurien, si on peut mettre ce qualificatif. Alors son raisonnement c'était l'action, donc un, l'action relève de la désobéissance civique. Voilà. Deux, mais les prévenus n'ont pas revendiqué, et donc ils dérogent à la règle de ce mode d'action, alors donc ils ont tout faux, donc c'est par désœuvrement que l'action a eu lieu. Ça c'est le deuxième point de son raisonnement. Et le troisième point, mais ils étaient quand même super organisés. Voilà, donc merci pour la démonstration de culpabilité, c'est affligeant. Donc, l'action...
Mais la désobéissance civile, on peut être organisée aussi, non ?
Oui, oui, voilà, c'est ça. On a l'impression. Enfin, bon. Alors, l'action ne serait pas serait politique que si elle était assumée. Pourtant, celle-ci a bien fait l'objet d'une revendication, puisqu'il y avait eu des tracts, quand même, qui avaient été laissés sur place. Bref, le juge fait de longues déclarations, ensuite pédagogiques, sur la preuve en matière pénale et les éléments de contexte. Parce qu'en fait, les éléments de contexte, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre, une brochure, des fréquentations. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'épreuve.
Ça me rappelle. Ça sent un petit arnaque.
C'est ça. Et donc, en creux, le juge semble douter du bien fondé de l'accusation. Il soulignera qu'il n'est pas responsable du renvoi devant sa juridiction. Comme quoi, voilà. Alors, entre les uns à côté de la plaque et les autres pas vraiment convaincus...
C'est ça qu'on voyait la petite chose.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, la scène prend un petit peu un caractère guignol. Les avocats ne relèvent pas vraiment le niveau et ils livrent une prestation sans flamme et qui ne dénonce que trop mollement l'acharnement qu'ont subi les camarades dans cette affaire. Bien sûr, il y a peu de chances pour qu'il y ait relaxé, encore moins acquittement. Ça voudrait dire que le tribunal juge l'enquête et l'instruction mauvaise, et ce serait bien étonnant. Et cela n'empêche évidemment pas d'espérer un tel miracle. Il nous faudra attendre le 3 novembre pour en avoir le cœur net. D'ici là, les paris sont ouverts.
La réquisition, c'est 6 mois.
Oui, c'est ça.
Personne 6 mois avec sursis et une personne 6 mois ferme.
Voilà, 6 mois ferme demandé pour l'un des prévenus et 6 mois de sursis pour les autres. C'est. Voilà, bon.
On saura ça en novembre.
Ouais, on saura ça le 3 novembre. On en parlera à l'antenne.
On accélère la facturation. On est toujours sur les tracasseries administratives, judiciaires et tout ce qui s'en suit avec Christine Rivalli. On en a déjà parlé à cette antenne qui, du coup, est en prison suite à des incidents d'abord au parloir où elle visitait son compagnon, puis en détention, puisque en gros elle ne se laisse pas intimider par l'administration pénitentiaire. En avril dernier déjà, c'est son transfert qui avait été refusé par la gendarmerie entre Strasbourg et le tribunal de Poitiers, qui fait que le procès avait été reporté, donc au 6 octobre. Et là, en fait, c'est la convocation en justice délivrée à l'avocat qui oubliait quatre faits, faute d'une impression recto verso. Alors bon, apparemment, l'avocat de la défense était tout à fait d'accord pour virer ces quatre faits, mais le procureur n'a pas voulu, hein, donc voilà. Donc c'est encore un procès repoussé, donc est renvoyé à la date du 15 mars 2015 quand même, donc ça fait soit près d'un an après le premier passage en justice, ça fait quand même un petit peu long.
Voilà.
Donc on vous donnera des nouvelles, on continuera à suivre. Mais on espère que ça sortira, parce qu'on fait partie de ces gens qui sont en prison à leur aile, aucun délit pénal, hein, uniquement des tracasseries avec l'administration carcérale. Hein. On en a un autre aussi qui devrait être sorti depuis très longtemps, et il y a un rassemblement qui est appelé le 24 octobre à la maison. Il s'agit de Georges Ibrahim Abdallah. On en a parlé beaucoup à cette antenne ici. En fait, il est libérable depuis 1999. Donc il a fait X et X demandes de conditionnelles. La dernière qui avait été acceptée, hein, de libération, alors sa libération avec condition d'exclusion au Liban, enfin, etc., elle avait tout été acceptée. Eh bien, figurez-vous que Manuel Valls n'avait pas eu le temps de signer l'ordre d'expulsion. Oui, il ne voulait pas. Hein. Eh bien, il n'a pas signé, en tout cas. Voilà. Et donc, ce militant qui est un anti-impérialiste, donc n'aime pas trop les Américains, mais qui est pro-palestinien, donc qui aussi s'oppose à l'État d'Israël, eh bien, est en prison. Pour s'inscrire, puisqu'il y a des départs collectifs en bus à Toulouse, c'est tout simplement à coupourcoup31@gmail.com, je pense qu'on en reparlera sur cette antenne. Et puis on va vite continuer sur les annonces sans coupure.
Ouais,
et moi j'ai une annonce, c'est après, parce que moi c'est,
ouais,
pour
c'est
le vendredi 9 octobre. Alors je suis désolée pour les personnes qui écoutent l'émission en rediffusion le vendredi après-midi, parce que ça sera passé, c'est le matin à 9h, donc vendredi 9 octobre à 9h du matin. C'est devant un rassemblement devant le tribunal d'instance. Alors lui il est 40 avenue Camille Pujol, hein, c'est pas ni grande instance ni administratif, c'est l'autre. Et en fait ce sont 150 Syriens qui depuis le mois d'avril-mai se sont installés dans des HLM et des appartements vides qui appartiennent à Habitat Toulouse, vides parce que soi-disant ils sont promus à la destruction car insalubres, ce qui n'empêche pas ce monsieur Franck Biesato de dire qu'il devrait lui payer 478 euros mensuels de loyer alors que c'est inhabitable. Donc c'est le DAL 31 qui assiste ces personnes. Il y a aussi Novox International qui appelle à ce rassemblement de soutien. Je rappelle, c'est donc vendredi 9 à 9h devant le tribunal d'instance 40 avenue Camille Pujol, soutenir des familles syriennes, 150, qui sont accusées de s'être installées dans des logements vides.
Ouais.
Et à qui on a fait subir pas mal de choses, coupure d'eau, coupure d'électricité, etc., etc.
Il y a également une réunion débat intitulée Un monde de frontières et de barbelés qui aura lieu donc ce week-end, ce samedi 10 octobre. C'est à partir de 16h au bar Le Calimera qui est situé en face de la place Arnaud Bernard. Voilà.
Et il y aura aussi organisé par le collectif Toulouse-Syrie Solidarité, donc samedi 10 octobre à 18h30 à l'espace des diversités, une soirée intitulée La liberté face à la tyrannie. Donc il y aura trois Syrienne invitée, donc Fida Orani, Wajdan Nassi, Dua Alachour, donc un médecin, une écrivaine et une journaliste écrivaine. Donc voilà. Et après tous ces soutiens et ces débats, vous pouvez aller faire la fête, mais c'est pas n'importe quelle fête, c'est un festival. festival antifasciste. Alors il y a une première soirée le vendredi 9 octobre à partir de 20h, et là c'est du rap hip-hop, donc je vous dis pas tout, aussi il y a la vermine, sans mêler, de la russe quoi, etc. L'entrée est tarif prix libre, et donc ça se passe à la dernière chance, c'est tout simplement sur la place Arnaud-Bernard, 16 place Arnaud-Bernard, et je vous ai dit c'était aussi le week-end, donc samedi, ça continue le festival, et là c'est la soirée punk rock, avec Krochka, Les Affectés, Quartier Libre Association, Union Antifasciste Toulousaine, vous invite donc à venir à la dernière chance Arnaud-Bernard ce week-end au festival antifasciste.
Voilà, et donc c'est la fin de cette émission, un peu en speed avec un petit peu de retard. Vous nous écoutez en direct sur Canal Sud 92.2 chaque jeudi soir de 19 à 20h. En rediffusion, bien sûr, la même antenne le vendredi de 17h à 18h. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire. Émission Bruit de Tôle, Canal Sud 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Et si vous souhaitez nous envoyer des mails, c'est bruit de tôle, tout au pluriel, avec un O pour tôle, @no-log.org. Voilà, on se retrouve à la semaine prochaine dans 15 jours pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée à toutes et à tous.
La semaine prochaine, c'est la CLIM.
Exactement, le collectif de soutien aux sans-papiers. Allez, bonne soirée et bon courage à ceux qui sont à l'intérieur.
Au revoir, ciao.
Pourquoi faut-il se compliquer la vie ?